Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec l'économiste Michel Santi. Bonjour Michel Santi.
Bonjour.
Vous êtes économiste, comme je l'ai dit, expert des marchés financiers. Vous avez conseillé des banques centrales. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont le dernier, il y a 2 ans, c'était le fameux testament d'un économiste désabusé à l'issue de la crise sanitaire. Et en ce moment, Michel Santi, vous faites... tout le monde parle de vous, hein. Voilà.
Ah bon?
Ah oui, tout le monde parle de vous, cher Michel Santi, parce que vous avez mis, vous tapez un grand coup d'épée là en ce moment, à travers votre billet qui circule partout sur la crypto-monnaie, cette panique qui va dans cet univers, avec ce titre un peu choc, la spéculation pour les pauvres. Pourquoi la spéculation pour les pauvres?
Eh bien, écoutez, j'ai fait le rapprochement, en fait, de manière tout à fait fortuite avec la crise des subprimes qui avait démarré aux États-Unis, vous vous en souvenez, en 2007. Et à l'origine, c'était quoi la crise des subprimes? À l'origine, en fait, c'était des ménages et des familles pauvres de la classe moyenne inférieure aux États-Unis qui n'avaient pas les moyens, qui n'étaient pas qualifiés pour emprunter de l'argent pour s'acheter sa résidence, qui bénéficiaient néanmoins de prêts de manière intensive et généreuse de la part des banques américaines. Et on a appelé ça à l'époque les subprimes. Sub, ça veut dire, bien sûr, il y a le préfixe sous. C'était des personnes qui étaient sous-qualifiées, et ça a été le démarrage. On s'en souvient de la crise financière, les subprimes, ça, c'est parti de là. Et j'ai le sentiment que les crypto-monnaies, précisons bien, je ne parle pas de la blockchain, de la technologie blockchain, je parle des crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, etc., et tout cet arsenal qui, me semble-t-il, maintenant sont devenus un objet d'un engouement quasiment irrationnel je vais mettre les pieds dans le plat, de la part de toute une génération qui, à l'aide de son téléphone, ne cesse de, bien sûr, de zapper, ça c'est normal, de communiquer, c'est encore plus normal, mais de spéculer avec du coup des fractions, des millièmes de Bitcoin, puisque le Bitcoin, on peut l'acheter en fraction. Et cette génération se retrouve aujourd'hui coincée, collée, comme on dit dans le jargon trader, parce que beaucoup d'entre eux ont acheté les crypto-monnaies à des niveaux beaucoup plus hauts, et on voit aujourd'hui un effondrement général de cette classe d'actifs à la faveur de la hausse des taux d'intérêt mondiaux. Et je me dis, mais quel gâchis! Donc voilà pourquoi j'ai fait cette analyse un peu provocante, je dois le dire.
Comment se fait-il qu'avec un peu de bon sens, on aurait pu réfléchir sur le piège des crypto-monnaies et que beaucoup d'investisseurs n'aient pas fait preuve de bon sens dans ce domaine, alors que là où, comme vous le dites, on peut faire preuve de bon sens, comme l'investissement en bourse, tout le monde est sorti de l'investissement en bourse, mais vous rappelez évidemment que la bourse, ça monte et ça baisse, et même quand ça baisse, il nous reste toujours quelque chose de tangible, c'est-à-dire une part d'une entreprise réelle qui a pignon sur rue et qui vend des produits.
Eh bien, écoutez, je vais vous faire une réponse quasi philosophique. En fait, cette génération, bon, il n'y a pas que les jeunes qui ont connu cet engouement pour la crypto-monnaie, aussi, bien sûr, les plus âgés. Mais je veux dire, toute cette frange de la population, en France et ailleurs, du reste, donc, qui s'est beaucoup excitée ces dernières années sur les crypto-monnaies, en réalité, était mu par une tentation libertarienne, je dirais, parce que les crypto-monnaies, c'était la façon idéale d'échapper à l'emprise de l'État, d'échapper à l'emprise du système bancaire. Moi-même, pour tout vous dire, parmi la multitude de réactions que j'ai reçues un message tout à fait raisonnable de la part d'une personne, c'est une illustration à ce que je viens de vous dire. Cette personne m'a dit qu'en fait, il avait été interdit bancaire en France depuis quelques années et il n'arrivait plus à payer sa vie courante que grâce aux crypto-monnaies. Donc, vous voyez, pour répondre à votre question, cet engouement pour les crypto-monnaies, bien sûr, il y a eu le côté spéculatif, je vais gagner de l'argent, les crypto-monnaies, la valeur des crypto-monnaies va monter au ciel, mais il y a eu aussi une volonté délibérée de la part de ces investisseurs et de ces spéculateurs de se dégager de l'emprise du système bancaire qui, il est vrai, a commis énormément d'abus ces dernières décennies.
Je sais que vous êtes plutôt étatiste, voilà, philosophie, vous êtes moins libertarien, mais est-ce que ce n'était pas déjà une belle raison ? Au moins, il y avait une vraie raison là-dessus,
oui,
chez cela. La mauvaise raison, c'était de dire « je plonge dans la piscine les yeux fermés » uniquement pour faire de la spéculation parce que le voisin m'a dit que j'allais gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est la mauvaise raison. La raison, j'allais dire noble, était libertarienne. C'est les plus intelligents qui étaient finalement les libertariens.
Certes, mais...
Et je vous pose cette question à vous qui êtes à l'opposé. Hein.
Mais dans ce cas-là, il se pourrait bien que les libertariens soient sortis aujourd'hui de ce marché qui s'est effondré, ou alors qu'ils se disent, parce que moi je suis en contact avec certains de ces entre guillemets libertariens intelligents, adeptes, fanatiques néanmoins de ces crypto-monnaies, avec qui je communique régulièrement. Alors soit ils sont sortis parce que ils ont vu que le marché baissait trop, ils ont pris leur perte, ou alors ils ont pris une partie de leurs bénéfices, soit ils se disent qu'ils sont dans les crypto-monnaies à vie et qu'il se pourrait très bien que dans 5 ans, ils revoient leur niveau. Mais il y a déjà eu un indice ces derniers mois qui ne trompait personne. Je suis macroéconomiste, donc moi j'ai décelé cet indice depuis déjà quelques mois. Il suffisait de mettre le graphique, par exemple, du Bitcoin et de le vous pouviez le calquer sur le graphique du Nasdaq américain, donc de l'indice des valeurs technologiques américaines.
Ah, c'est quasiment. Mais elles perdent de l'argent, les valeurs technologiques américaines, beaucoup.
Mais bien sûr,
il y a beaucoup de bluff.
Ce que je veux dire par là, c'est que ces derniers mois, il y avait une corrélation quasiment à 100% entre le Nasdaq et le Bitcoin, par exemple. Mais ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que ce marché de Bitcoin et des crypto-monnaies, ça veut dire qu'il s'embourgeoisait. C'est ça que je voulais dire par là. C'est-à-dire qu'ils s'embourgeoisaient et que voilà, il y a eu un afflux ces derniers mois, en gros ces 2 dernières années, de spéculateurs et d'investisseurs quasiment les mêmes qui allaient sur les bourses, pas seulement le Nasdaq, mais sur les bourses, sur les valeurs boursières, sur les capitalisations, et donc que ce penchant libertarien, ils se sont embourgeoisés, voilà ce que je veux dire par là. Donc il n'en reste plus qu'une miette. Des inconditionnels et cette jeunesse qui aujourd'hui n'a plus que ses yeux pour pleurer parce que pour la plupart d'entre elles, elle se retrouve collée avec des crypto-monnaies à des niveaux beaucoup plus élevés. Donc soit prendre sa perte maintenant, mais bon, ça voudrait dire prendre une perte avec plus de 90%, ou alors attendre qu'ils aient 40 ans.
Attendre longtemps. Est-ce que le libertarien qui est cohérent avec son idéologie, finalement, ben, il ne devrait pas plaider pour le maintien de l'argent en espèces. Parce que finalement, si on est libertarien,
évidemment,
la cohérence, c'est l'espèce. C'est
évidemment,
le billet de
mais puisqu'on sait très bien que l'argent, que les espèces vont disparaître, j'ai été moi-même un des plus fervents soutiens de la disparition du cash pour la disparition du cash depuis une quinzaine d'années. Et évidemment, la Covid a accéléré cette tendance inéluctable. Je veux dire, comme on dit en anglais, c'est un done deal, c'est chose faite, la disparition des espèces, en tout cas des grosses coupures. Il ne reste plus que les crypto-monnaies. De nos jours, vous savez, on paye tout avec, pas peut-être pas, certainement pas que avec les crypto-monnaies, mais avec les applications, avec son téléphone, avec les cartes bancaires. Donc, les libertariens aujourd'hui, il faut qu'ils se fassent une raison. Il n'y a plus, il ne faut plus compter sur les espèces.
Et pourtant, je vais aller contre finalement ce que vous plaidez. Est-ce que les espèces, c'est pas la liberté, c'est la zone d'intimité? Vous voyez bien, quand il y a un problème, il y a un problème informatique, etc. Ceux qui sont sauvés sont ceux qui ont des espèces. L'espèce, c'est la liberté, c'est la confidentialité.
Oui, mais écoutez, vous pouvez pas me poser ce type de question alors que de toute façon, la confidentialité, vous la sacrifiez à partir du moment où vous avez un téléphone portable. Donc
C'est cohérent ce que vous dites. Alors maintenant, je vais vous prendre un exemple. Est-ce que c'est un exemple que je prends souvent quand j'aborde ce sujet. Si vous, je parle pas de l'illégalité, je parle pas de, évidemment. Je dis, mais si je veux offrir des fleurs à ma maîtresse, je vais le faire avec en payant en espèces. J'ai pas envie que ça apparaisse sur un relevé et que ma femme le voit. Ça fait partie de ce qu'on appelle la zone d'intimité. Là, je suis pas dans l'illégalité. Vous voyez ce que je veux
Bien
dire?
sûr,
Voilà.
bien sûr, bien sûr. Mais écoutez,
N'ayez pas de maîtresse.
je pense qu'il faudra les acheter et les lui porter vous-même.
Oui.
Je pense.
Voilà.
Donc, je ne vois pas d'autres possibilités. Il faut que, je le répète, il faut se faire une raison. Ce monde est désormais révolu. Et s'il y avait encore un doute, eh bien, la COVID a consacré l'avènement du tout digital. Je veux dire, il y a de plus en plus de grosses compagnies, de compagnies importantes, pas seulement des compagnies aériennes, qui refusent catégoriquement les espèces, même pour des très petits montants. Donc, c'est un mouvement de fond. C'est un changement de paradigme et les crypto-monnaies ou les adeptes, les fanatiques des crypto-monnaies, ils ont cru que la crypto allait remplacer tout cela, mais non, la crypto, c'est juste une partie de ce monde qui va émerger. Je vous signale que, par exemple, la Chine est en train de faire des expériences très concluantes. Bon, je mets entre parenthèses aujourd'hui la Chine qui connaît une période très trouble avec les
Ah
confinements,
oui.
mais hors cette période, elle a fait des expériences qui se sont avérées jusque-là très concluantes du yuan digital. La Banque centrale européenne est aussi en train de faire pareil. Donc, on va vers le tout digital et c'est un changement de paradigme qui est inéluctable.
C'est très important ce que vous dites, parce que derrière ce changement de paradigme, il y a aussi un changement de société et une nouvelle approche. Une nouvelle perception de nos libertés individuelles. Bah, je vais prendre l'exemple, cher Michel Santi. Je sais que vous êtes né à
À
Beyrouth. Vous
Beyrouth,
voyez bien qu'au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, il y a beaucoup de gens qui vivent par ce qu'on appelle l'économie parallèle, par le black, quoi, par l'espèce.
bien sûr.
Si tout cela venait à disparaître, est-ce qu'on risquerait pas d'appauvrir des millions de personnes dans le monde? Je
C'est
pèse même
évident,
mes mots, des
vous avez
centaines de
raison.
millions de personnes dans
Vous
le
avez
monde.
raison, mais bon, quand je dis que c'est inéluctable, je parle des économies dites, entre guillemets, intégrées. Donc,
Oui.
l'Union européenne, les États-Unis. Mais vous avez entièrement raison. Et du reste, l'effet vous donne raison, puisque peu de gens sont au courant, mais il y a en 2013-2014, je ne me souviens plus très exactement, l'Inde a pris des mesures du jour au lendemain, d'une nuit à l'autre, de faire disparaître la quasi-totalité de ces billets de banque pour les remplacer quelques mois plus tard par d'autres billets de banque. L'objectif était évident, Évidemment, l'objectif était de juguler, non pas de supprimer le marché noir ou le marché gris, mais de le juguler en forçant les gens à aller dans les banques, déposer leurs anciennes coupures pour ensuite avoir quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard les nouvelles coupures. Le résultat, ça a été une catastrophe humanitaire, en effet, parce que la population n'était pas préparée, parce que tout le monde n'avait pas de compte bancaire, parce que pour avoir un compte bancaire, il faut une pièce d'identité, et beaucoup d'Indiens, je ne connais pas le pourcentage, mais un pourcentage respectable d'Indiens n'a pas tout simplement de carte d'identité. Donc effectivement, pour rejoindre ce que vous dites, la disparition des espèces va peser lourdement sur les PIB des pays en développement. Cela étant dit, je prends un autre exemple d'un pays en développement, oui. Le Kenya, qui est leader depuis 10 ans déjà en termes de paiement par téléphone. Donc le Kenya
le Cambodge qui a développé ça.
Et le Cambodge. Donc vous voyez, il y a pourquoi historiquement le Kenya est leader en Afrique, parce que il y avait énormément de cambriolage dans les petites maisons et dans les baraquements, et donc les familles mettaient le cash chez elles étaient cambriolées quand elles partaient, et donc pour parer à cette plaie, l'État a mis en place, et les opérateurs téléphoniques ont mis en place, principalement un qui s'appelle M-Pesa a mis en place les paiements par application téléphonique, et petit à petit, tout le monde est mis dans le village le plus reculé du Kenya. Aujourd'hui, vous ne payez plus en argent liquide, mais vous payez votre épicier et n'importe quoi, votre service, avec votre téléphone. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas comme... tout est à condition qu'il y ait une préparation. On peut éviter les catastrophes humanitaires dans les pays en développement.
Est-ce que la transition, quand on dira ça y est, on siffle la fin de la récréation sur les espèces, est-ce que ça peut être finalement un bon moyen pour un pays comme le nôtre, à savoir en l'occurrence la France, de faire entrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État? Je vais prendre un
Bien
exemple.
Sûr.
Imaginons quand, moi Bien je suis sûr. Ministre de l'économie, je dis que le 1er janvier 2024, il n'y a plus d'espèces, il y a des millions et des millions qui sont sous les matelas, comme on dit, avec la TVA à 20%, les gens vont être obligés de tout claquer.
C'est évident, mais je dirais que le problème le plus aigu ne se pose pas tellement en France, mais se pose surtout dans des pays comme l'Italie et l'Espagne. Des calculs très sérieux ont été faits il y a 5-6 ans, que si les espèces disparaissaient de ces pays, elles gagneraient une quinzaine de points de leur PIB.
D'accord.
Donc vous voyez,
puisque l'économie deviendrait officielle par les
Bien
déclarations,
sûr.
Oui, le black
Bien sûr.
Serait,
donc,
serait fini.
Donc la France est certainement moins touchée.
Oui, mais en France, on a beaucoup d'argent sous les matelas.
Je vous signale que la France, parmi les pays de l'Union européenne, est le pays qui, je parle déjà même avant la Covid, est le pays où l'on payait le plus par carte bancaire.
Oui, contrairement à l'Allemagne.
Et
vous
voilà,
pouvez aller acheter une Mercedes
voilà,
en espèces. Vous pouvez
aller
avec votre valise, une valise
voilà.
d'espèces pour payer votre Mercedes.
Pas seulement pour payer votre Mercedes. Oui, bien sûr, pour
je
payer votre
Mercedes. Je prends une très grosse somme, c'est pour
dire,
ça. Votre
en Allemagne,
Mercedes.
C'est très courant. En Allemagne, c'est très courant. Mais quand je dis très courant, c'est vraiment très courant d'aller acheter sa Mercedes à 60 000 euros et de
oui,
la payer
ça.
Cash.
Oui.
Donc, et le problème le plus... Je veux dire, le pays qui sera le plus réticent de l'Union européenne à la disparition du cash et restera l'Allemagne.
Et c'est le plus
Mais
puissant.
Mais pourquoi? Ce n'est pas pour des raisons... L'Allemagne n'est pas à cheval sur le cash pour des raisons théoriques, mais c'est uniquement parce que l'Allemagne a connu plusieurs traumatismes monétaires. Donc, rappelons-nous de l'hyperinflation qui a été, dans l'ordre chronologique, je veux dire, des années 20... La première grande crise jusqu'à notre période contemporaine. Ne négligeons pas ce que M. Kohl a fait, qui a décrété que le Deutsche Mark vaudrait la même chose que l'Ostmark de l'Europe de l'Est. Et donc ça aussi, ça a été le dernier traumatisme en date. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tout ça, ça s'est imprimé dans les gènes allemands. Et voilà pourquoi ils sont réticents à la disparition du cash, parce que, au cas où, comme vous l'avez dit vous-même.
En résumé, vous dites que le crypto, finalement, c'est la spéculation pour les pauvres, donc on reste à l'écart, et même si c'est risqué, il vaut mieux aller vers le traditionnel comme la bourse ou encore l'immobilier.
Bah écoutez, je ne donne pas de conseils en termes de placement, mais...
Non, c'était pas un conseil, je restais sur une ligne très générale, hein, oui.
Je constate qu'il y a un alignement, une corrélation, pour employer un terme financier, trop intense actuellement entre les crypto-monnaies et les marchés boursiers traditionnels. Et cela veut dire que... ça veut dire que les cryptos ne représentent plus une diversification aujourd'hui. Voilà, ça veut dire tout simplement ça. Parce qu'en termes de placement, de gestion de patrimoine, je veux dire, la clé, c'est la diversification. Les cryptos auraient pu représenter une alternative ou une classe d'actifs de diversification si elles évoluaient de manière indépendante des marchés boursiers traditionnels. Or, ce n'est plus le cas. Je veux dire, aujourd'hui, nous assistons depuis quelques semaines à un effondrement boursier qui n'est pas fini selon moi, et également à un effondrement des cryptos. Alors si les cryptos montaient pendant qu'il y avait un effondrement boursier, je vous dirais oui, c'est une classe d'actifs qui a pu trouver son rythme de croisière. Donc, or, ce n'est pas le cas.
Oui, mais les cryptos, c'est du vent. Si vous avez un paquet d'actions de Bouygues, vous avez quand même du réel avec des actions, des antennes, d'une chaîne de télévision, vous voyez, de droits d'auteur, voilà.
À cela près que si vous avez acheté une action Bouygues à 1000 et qu'elle se retrouve à 300, ben vous êtes quand même mal.
Oui, mais tant qu'on n'a pas vendu.
C'est vrai.
Tant qu'on n'a pas vendu.
C'est aussi le cas pour les cryptos.
Et voilà. Voilà. Merci Michel Santi, vous étiez passionnant, comme d'habitude.
Merci de votre appel.
C'était un plaisir de vous avoir. Michel Santi, l'économiste, vous avez publié, je rappelle, il y a 2 ans, le testament d'un économiste désabusé, qui est encore un peu l'actualité, parce qu'il a été fait après le Covid, et vous nous projetez un peu sur ce monde d'après que l'on voit et que l'on observe aujourd'hui.
Merci de votre appel.
Merci Michel Santi.
Au revoir.